Jean-Bernard Leroy. Voici donc mon exposé du mois de novembre, malgré que je fais en dépit, malgré la mort de notre cher ami Abraham, comme me l'a autorisé les gens de Radio Silence. J'arrêterai probablement sous ces exposés au mois de mai prochain, car l'âge est là qui me demandera d'arrêter. Mais pour l'instant, puisque c'est autorisé, je continue à le faire. Je parlerai cette fois-ci de l'écriture et de la science. Dieu nous parle par ses prophètes et par ses apôtres. Plus exactement, il charge ses ministres de transmettre le message qui permettra aux hommes de retrouver son amour. En même temps, l'homme met à profit l'intelligence qui lui a été donnée pour mieux connaître et comprendre le côté matériel de la création et l'utiliser comme Dieu lui a donné, comme Dieu lui en a donné la charge. Y aurait-il contradiction entre telle proposition des Écritures et la conclusion de la science? Au XVIe siècle, l'histoire a surtout retenu l'affaire Galilée, dans laquelle les agnostiques voyaient un prétexte de juger l'Écriture comme une divagation de peu de valeur. Les philosophes ne considéraient qu'un être universel, l'existence avec toutes ses imperfections, mais non l'être que l'on pourrait dire plein, celui qui est, a été et sera le créateur au-delà du temps. L'antique système de Ptolémée, qui savait déjà que la Terre était ronde, contrairement à ce que beaucoup pensaient parmi les anciens, supposait que la Terre était immobile. À la réflexion, cela semble quelque peu étrange. L'astronomie cherche tout d'abord à décrire mathématiquement les mouvements des astres les uns par rapport aux autres. Mais on peut mettre le point fixe où l'on veut. Pour l'architecte, c'est évidemment le soleil qui tourne, comme pour celui qui, sur la plage, cherche à savoir si dans une demi-heure il sera à l'ombre ou au soleil. En voiture, en train, je cherche à rapprocher un objet, à le ramasser parce qu'il est tombé par terre, ou à faire une communication téléphonique, un numéro téléphonique, en considérant le véhicule comme fixe. Copernic avait compris que les mouvements des planètes et de leurs satellites étaient plus faciles à exposer, à mettre en équation avec un soleil comme, avec le soleil comme point fixe. Ce qu'on est loin de penser aujourd'hui, que le soleil soit fixe, en le considérant comme entraîné dans la rotation d'une galaxie. Mais le mouvement des sondes extraterrestres, le mouvement des astronautes a toujours est toujours étudié avec la Terre comme point fixe. Il y a 400 ou 500 ans, on restait attaché à une conception dans laquelle physique, philosophie et la Bible formaient un ensemble dont on ne pouvait détacher un morceau sans tout détruire. Toute vérité scientifique devait s'appuyer sur un texte sacré. Or, certains faisaient déjà remarquer que l'Écriture ne dit pas comment va le ciel, mais comment on va au ciel. Les théologiens ne voulaient pas que l'Écriture fût contestée au profit d'une doctrine incertaine, comme on le disait de Galilée. Mais pour avoir pris cette position, Galilée fut condamné à la réclusion. En fait, il vécut confortablement dans sa patrie, près de l'archevêque de Pise, sous la surveillance du Saint-Office, mais sans être malmené. Le décret de 1616 de l'Index interdisait de considérer l'opinion de Galilée comme une vérité démontrée, mais ce n'était que la simple décision d'une congrégation et non une vérité de foi. En fait, on ne trouve dans la Bible aucun texte prétendant que la Terre est fixe. Au XIXe siècle, l'expérience du pendule de Foucault mit fin à ce genre de discussion. Remarquons aussi cette phrase d'un poète. Aîné de son bateau vit s'éloigner la terre et les villes. C'était donc le bateau qui était fixe et la terre et les villes qui s'éloignaient peu à peu. Depuis, la science a fait bien des progrès. Il n'est que de citer la préhistoire et les déchets et les débuts de l'humanité. L'Écriture n'est pas un livre scientifique ni un livre historique. J'ai déjà cité Salomon, ses 700 femmes et ses 300 concubines. C'est la parole de Dieu destinée à nous ramener à lui, à travers de grands exemples comme Abraham, Moïse et David malgré Bethsabée. C'est une invitation à l'amour et à la fidélité d'une créature blessée par le péché originel. Vous pouvez m'excuser. L'Église est une mère sans cesse occupée de ses enfants. Elle ne combat pas la science. Ce sont d'ailleurs les pays chrétiens qui sont de loin les plus avancés dans ce domaine. Mais elle apporte d'abord la dévotion, la foi, l'obéissance. Le cœur et l'intelligence se développent et se complètent mutuellement. Il reste une question, non traitée par l'abbé Huvelin, mais que j'ai entendu traiter par le père Marie-Dominique Philippe, fondateur de la communauté Saint-Jean, celle de l'outil. L'outil est le propre de l'homme. On a vu certains animaux se servir de cailloux pour casser des coquilles, mais cela n'a rien de commun avec les outils que l'homme perfectionne tout au long de son existence. Pierre éclatée, pierre taillée, bronze, métaux, jusqu'à l'informatique actuelle, qui fait dire à certains que l'outil pourrait remplacer l'homme. C'est une folie d'orgueil, puisque l'outil reste le produit de l'homme. Être détrôné par son travail est une folie. On cite parfois les appareils à jouer aux échecs qui peuvent vaincre nos champions. Mais c'est l'homme qui a inventé le jeu et les règles. L'outil ne fait aucune découverte. Seulement l'intelligence artificielle permet d'aller plus loin avec les conséquences d'une logique mécanique, ce qui est dangereux avec... Seulement l'intelligence artificielle permet d'aller plus loin dans les conséquences d'une logique mécanique et ce qui est dangereux sans réfléchir sur les conséquences d'actes qui deviennent automatiques. L'outil est dénué de raison. Il ne sait pas ce qu'il fait. Un homme dans son état est un fou. Beaucoup rêvent de pouvoir dormir pendant que l'outil travaille. C'est exactement l'histoire de l'apprenti sorcier, poème de Goethe si bien mis en scène par Walt Disney dans Fantasia. Le résultat est une catastrophe. À notre échelle, ce pourrait être la fin du monde. Dieu nous en préserve. L'homme est de se voir ainsi dépassé par son industrie, mot que j'utilise plus que le mot de création, car l'homme ne crée rien. Sur le plan matériel, la possibilité de l'homme est largement augmentée. Des appareils soulèvent des poids considérables. L'homme traverse les mers avec des fardeaux inimaginables il y a peu de temps. Il vole dans les airs, dans l'espace et va dans la lune. C'est encore plus remarquable pour la mémoire. Un ordinateur peut emmagasiner des dictionnaires, des bibliothèques, mais dans l'être profond de l'homme, rien de semblable. L'ordinateur ne rédigera jamais un poème, si ce n'est en plagiant un ancien. Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Il est amour, comme l'a si bien dit Benoît XVI. L'ordinateur est incapable du moindre geste d'amour, sauf s'il est programmé, mais l'amour peut-il être programmé? L'outil ne peut nous rendre esclaves que de la partie matérielle de notre être, ce qui comblerait Satan de joie, car ce qui est spirituel lui fait horreur. Mais jamais l'outil ne pourra donner un seul baiser, ni même un seul sourire. Le XVIIe siècle connut aussi d'interminables discussions au sujet de la grâce, de l'amour de Dieu pour les hommes. Nous savons que l'homme est libre sous le gouvernement de Dieu, d'un Dieu tout-puissant qui aime les hommes, désire les combler, mais qui lui a donné la possibilité exorbitante de le rejeter. Un amour se doit d'être libre. L'amour ne peut venir de celui à qui nous dirait « Tu m'aimes ou je te tue ». L'extraordinaire récompense du salut éternel ne peut être donnée que par des actes libres. Je pense toujours au dessin du petit enfant pour la fête des mères. Tout lui est donné par les parents, le papier et le crayon. Le gribouillage n'a qu'une valeur artistique pour le moins contestable. Mais l'amour du petit enfant est indiscutable. Et ses parents ne manqueront pas d'exposer le chef-d'œuvre dans leur chambre, voire dans leur salle à manger. Le fond du problème est l'amour que Dieu demande à l'homme de lui accorder. Luther et surtout Calvin avaient tendance à limiter la liberté humaine autant que possible dans leur théorie de la prédestination où tout est décidé d'avance. Les jansénistes pensaient aussi que la grâce de Dieu n'était pas accordée à tous de la même manière. La grâce est le travail de Dieu dans les hommes. La grâce est l'intelligence abîmée par le péché originel, mais elle incite l'âme et ne la contraint jamais. On a parlé de grâce prévenante, coopérante, persévérante, mais c'est toujours la même. Dieu travaille à son œuvre et il ne faut pas craindre d'avoir beaucoup reçu de lui. Les deux choses les plus nuisibles sont la paresse et le mensonge, qui vous détruisent peu à peu, comme la calomnie de la chanson, et ruinent l'œuvre de Dieu pour laisser place à l'orgueil. Il est faux de dire comme les jansénistes que Dieu entre de force dans l'âme. Il attend sur le pas de la porte. Quand nous aurons accepté de le laisser entrer, il nous accompagnera et nous donnera les forces nécessaires. Le libre arbitre ne disparaît pas parce qu'il est aidé. La lumière de la grâce ainsi que les ténèbres, la lumière de la grâce dissipe les ténèbres et nous libère de l'ignorance. Dieu est avide des âmes, Dieu est avide des âmes qu'il éclaire, disait saint Augustin. L'âme peut alors s'ouvrir dans l'amour infini qui la crée. Je vous prie de m'excuser pour les quelques hésitations. Je traverse une période difficile. Voilà. À la prochaine fois, je vous souhaite un bon hiver.